écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Christian Van Est, assisté de Nathalie, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 26 juin 2019, de 18h à 21h, et réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie. Ce soir, l'émission comprendra deux parties. La première partie sera consacrée au conservatisme. Ce n'est pas la première émission que je consacre à ce sujet, qui devient difficile. Alors je l'ai intitulée d'une façon qui se veut un peu provocatrice, mais où sont donc passés les conservateurs? Et dans la deuxième partie, alors ce sera pas drôle du tout, parce que c'est un sujet qui est poignant, c'est un sujet qui est particulièrement douloureux, c'est le sujet de Vincent Lambert. Nous étudierons en effet la situation de Vincent Lambert. Vous savez que cette semaine est tout à fait cruciale pour lui, puisque la Cour de cassation a examiné son cas et elle doit trancher et son avis sera donné vendredi. Donc nous sommes entre la question qui a été évoquée à la Cour de cassation, la décision qui sera donnée dans quelques jours. Voilà, alors je reviens sur le premier sujet. J'ai auprès de moi des élus de la région parisienne, parce que je pense qu'effectivement, si on se demande où sont passés les conservateurs, on se dit qu'effectivement, dans les votes de la région parisienne, ils ont en quelque sorte un peu disparu. J'ai donc Jean-Paul Bellufère, qui est adjoint au maire de Colombes, donc dans les Hauts-de-Seine, et j'ai cette fois-ci dans les Yvelines un élu de Versailles. Jean-Paul Bellufère est dans la majorité de Colombes. Fabien Bouglé, lui, est un élu de l'opposition à Versailles. Et il est également le président de Versailles Famille Avenir.
Bonsoir.
Voilà.
Bonsoir.
Alors,
à tous.
Nous aurons tout à l'heure au téléphone quelqu'un qui connaît bien le sujet aussi, qui est une députée. Il s'agit d'Emmanuel Ménard. Et vous savez bien pourquoi j'ai demandé à ce qu'elle intervienne. C'est que Emmanuel Ménard, comme Robert Ménard, avait participé à cette opération dont nous pensions qu'elle était précisément une résurrection du conservatisme, à savoir les Amoureux de la France. Nous avions d'ailleurs consacré une ou deux émissions aux Amoureux de la France. Les Amoureux de la France ont éclaté en vol. Ils ont disparu eux aussi comme les conservateurs et comme ils se voulaient conservateurs, c'est un peu dans le fond coup double que la disparition à la fois des conservateurs et des Amoureux de la France. Alors maintenant il faut dire ce que sont les conservateurs. Qu'est-ce que c'est que le conservatisme? Bon, j'essaye rapidement. Si on prend le conservatisme au sens très large du terme, dans le fond, c'est ce qui correspond au grand parti de droite dans l'ensemble des pays occidentaux, des démocraties occidentales. Et en général, ça s'appuie sur trois piliers qui sont d'une part un certain patriotisme, un attachement à la nation, ensuite un certain libéralisme, un attachement à la propriété privée et à la responsabilité individuelle dans le domaine des affaires, et ça s'attache aussi au conservatisme proprement dit, c'est-à-dire au respect des valeurs qui d'ailleurs limitent les deux autres, notamment les affaires. Un conservateur n'est pas partisan d'un laisser-faire, laisser-passer sans limite. Pour un conservateur, il y a des frontières, qu'il faut conserver. Des frontières qui ne sont pas seulement physiques, mais qui sont aussi morales. C'est-à-dire la raison pour laquelle le deuxième sujet de cette soirée, à savoir le sujet consacré à Vincent Lambert, c'est un sujet parfaitement conservateur. Parce que là, il s'agit de conserver la vie. Mais je pense que Jean-Paul Bellufère a envie de dire quelques mots là-dessus.
Je ne voudrais oui. Surtout pas interrompre cette brillante introduction de Christian Van Est, mais pour aller au contraire dans son sens, oui. Je cite un fait qui s'est produit, je crois, hier, aux États-Unis, où un certain nombre de chefs d'entreprises importantes, je crois plus d'une centaine, ont indiqué que l'avortement était quelque chose de bon pour les affaires, et que par conséquent, ce qu'ils considèrent comme un risque de remise en cause de la législation pro-avortement aux États-Unis, eh bien, il fallait faire très attention parce que c'était mauvais pour les affaires. Voilà un exemple étonnant mais très fort, de ce qui vient d'être dit sur les risques de contradiction entre conservatisme des mœurs et libéralisme économique.
Alors, j'en arrive, avant de laisser la parole à Fabien Bouglet, qui lui aussi a envie de dire quelques mots, ils sont là pour ça d'ailleurs, j'en arrive à l'essentiel. Pourquoi est-ce que nous avons, pour l'instant, deux élus de la région parisienne? Parce que lorsqu'on regarde les résultats, et qu'on entend notamment les commentaires de ces résultats par quelqu'un comme Patrick Buisson, on se rend compte que nous avions un pays où, dans le fond, nous étions habitués à une alternance entre des conservateurs, pas très conservateurs d'ailleurs, souvent ils se prétendaient même progressistes, et puis des socialistes. En gros, c'était ça. Bon. C'était le grand groupe central dont rêvait Giscard, avec une alternance entre les deux ailes du groupe central. C'est fini. C'est complètement fini. Et Patrick Buisson dit désormais, nous avons une opposition entre, d'une part, des gens qui sont parfaitement à l'aise dans la mondialisation. Ce sont les gens qui votent en général dans les métropoles. Ce sont les gens qui votent dans les villes aisées, dans les régions qui ne le sont pas moins. Donc ils sont relativement calmes, qui subissent pratiquement peu l'immigration, etc. Et puis, nous avons de l'autre côté, en revanche, des gens qui sont très mal à l'aise dans la mondialisation, qui se révoltent contre elle, et ces gens-là votent pour le Rassemblement National. Entre les deux, entre le vote macroniste, progressiste, et des gens à l'aise dans la mondialisation, et le vote Rassemblement National des gens qui se révoltent, eh bien, le conservatisme a explosé entre les deux parce qu'effectivement, il correspondait un peu au vote des Républicains ou par exemple au vote de Debout la France. Il n'y a pas eu de vote réel. Et quand je regarde les résultats, je me permets de terminer rapidement, et notamment dans la région parisienne, c'est très frappant. La région parisienne est une des régions qui a le plus voté pour les listes Macron, pour les listes En Marche, de façon très nette. Mais quand on regarde de près, on s'aperçoit que c'est par vague centrifuge. C'est-à-dire que le centre, Paris, a voté Macron, a relativement encore voté LR, mais beaucoup moins, et n'a pratiquement pas voté pour le Rassemblement National. Et ensuite, quand vous allez dans les départements périphériques, eh bien, on voit de plus en plus le Rassemblement National monter. Par exemple, il est encore dans les Hauts-de-Seine, il est encore quatrième. Dans le Val-de-Marne, il est troisième. Dans la Seine-Saint-Denis, il est deuxième. Et on voit le rapport avec la sociologie de la Seine-Saint-Denis. Et en Seine-et-Marne, il est premier. Et autour, quand vous dessinez cette fois-ci les départements qui sont autour de l'Île-de-France, tous les départements de la couronne autour de l'Île-de-France ont mis le Rassemblement National en tête. Je pense que cette géographie est une indication importante.
Alors, Christian Vanesse nous propose en fait deux points d'entrée pour notre échange. Premier point d'entrée, bon, le conservatisme, je ne vais pas m'y attarder trop longtemps parce que, à titre personnel, je considère que ce terme est un peu ambigu parce que la question qu'il pose immédiatement, surtout dans les sociétés liquides dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, je ne fais pas allusion à la canicule en parlant de sociétés liquides, mais au relativisme qui les caractérise, la première question qu'on peut se poser, c'est finalement, qu'est-ce que conserver? Et quelquefois, on aurait plus envie de se placer en quelque sorte en réaction qu'en conservatisme. Ça, c'est un premier point d'entrée, mais je ne vais pas m'y attarder. En revanche, le deuxième point d'entrée, c'est de partir de l'analyse, c'est beaucoup plus concret finalement, de Patrick Buisson. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, d'une certaine façon. Je veux dire par là qu'en effet, depuis les débuts de la Ve République, pour prendre les longues périodes, depuis les débuts de la Ve République, on a une relative stabilité. Je veux dire par là qu'on a une stabilité avec, depuis 1958, l'intégration progressive des centres dans le bloc dit de droite et un affrontement, c'est ce à quoi fait allusion Buisson, droite-gauche classique qui a été pendant toute la durée de la Ve République le plus souvent à l'avantage de la droite. Mais pour autant, une stabilité relative avec, en 1981 naturellement, l'arrivée au pouvoir de la gauche, d'ailleurs déjà à cause de la division des droites, une autre division mais comme la division des droites, et puis à partir aussi de la même période des années 80, le début de la montée en puissance du Front National. Ces deux événements vont conduire, et c'est ce point supplémentaire sur lequel je me permets d'insister, à une nouveauté sans précédent, c'est-à-dire que il devient désormais possible de prendre le pouvoir avec un potentiel, c'est ce à quoi nous assistons depuis 2017, hein, avec un potentiel de suffrage exprimé compris entre 20 et 25%, en tout cas lorsque le Front National ou le Rassemblement National atteint un pic de suffrage. Ça a été le cas d'ailleurs en 2002 avec Jacques Chirac, ça a été le cas en 2017 avec Emmanuel Macron. Donc le scrutin, si j'ose cette expression, mais c'est un changement considérable dans les institutions de la Ve République, n'est plus majoritaire mais minoritaire. Il suffit d'avoir une minorité de voix supérieure aux autres minorités pour l'emporter, ce qui modifie, on y viendra pendant notre échange, je ne veux pas être trop long, les stratégies possibles. Simplement, et je termine par là, si on rapporte ce constat aux dernières élections européennes, il est manifeste qu'avec 42-41% des suffrages est arrivé en seconde position. La République En Marche fait figure de vainqueur et LR, les Républicains, et sa thèse de liste assumée conservatrice, François-Xavier Bellamy, avec ses 8,48%, fait poser bien sûr la question du débat, mais où sont passés les conservateurs ?
Ils ont disparu. Alors, ils ont disparu notamment dans des communes où des communes qui passent pour être relativement aisées. C'est le cas de Colombes, c'est encore plus le cas de Versailles, je pense. Et on était habitué à ce que le RPR dans le passé, plus récemment l'UMP, puis les Républicains, aient en général des scores mirobolants dans ces communes. Et il semblerait que finalement leurs électeurs soient passés par train entier. Dans le macronisme, alors que précisément le macronisme n'est pas conservateur du tout sur le plan sociétal, notamment il est tout à fait progressiste. Fabien Bouglet.
Oui, moi je voudrais revenir sur la notion droite-gauche. Moi je pense qu'aujourd'hui la dichotomie ne se fait pas entre la droite et la gauche, mais se fait entre la France périphérique et la France privilégiée. Et que cette rupture sociologique est devenue la rupture politique. C'est-à-dire qu'on a les centres urbains boboisés. Quand on dit bobo, bourgeois bohème, mais aussi boboisé, bourgeois catho. C'est-à-dire qu'il y a eu une boboisation des cathos.
Et donc, c'est ce qu'on indique en disant que les catholiques ont voté pour
fait.
Les listes d'oiseaux, ce qui
est
assez paradoxal.
Et donc, on a d'un côté le peuple, qui a été exprimé d'ailleurs dans la France périphérique de Gulli, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais qui avait déjà senti ce phénomène, c'est-à-dire une France périphérique, une France privilégiée qui est dans la mondialisation, qui fait avion, boulot, dodo, qui finalement travaille à la défense. On a beaucoup de gens à Versailles qui travaillent à la défense, donc qui est en train progressivement d'adhérer à l'idée d'un progressisme globalement, et qui, alors que globalement ils étaient pour les mœurs et la préservation des bonnes mœurs et des valeurs morales, ont défilé massivement lors des manifs pour tous, mais est survenu un événement important, je pense, qui est clé, c'est que lorsque François Fillon, 2 minutes après son échec, a appelé à voter Macron, eh bien, il a lancé le signal de l'adhésion de tous les conservateurs boboisés aux valeurs de Macron. Et comme globalement, la droite, est, vous l'avez dit tout à l'heure, le conservatisme est aussi attaché à la propriété, comme Emmanuel Macron a aboli l'impôt de solidarité sur la fortune, eh bien, personnellement, je pense que la carte des taxés à l'ISF, lorsque il y avait taxation de l'ISF, et la carte du vote Macron est extrêmement proche, puisqu'on sait que c'est dans les Yvelines où il y avait le plus de taxés à l'ISF. Et cette corrélation, à mon avis, est très forte, c'est-à-dire que les bourgeois ont, pour des intérêts purement financiers, rejoint le macronisme, et finalement, la valeur argent a supplanté la notion des valeurs fondamentales comme la préservation de la vie, etc. Et après, nous, conservateurs, on a fait une erreur. Ça a été de croire que on a été, au moment des manifs pour tous, extrêmement motivés. Je pense qu'on a loupé la traduction politique de la manif pour tous. Ça, c'est à mon avis incontestable. Et après, quelques années après, on a cru que ces questions-là étaient des questions fondamentales. Or, aujourd'hui, c'est, je pense, malheureusement, politiquement des questions accessoires. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, toutes les, selon moi, hein, toutes les villes un peu conservatives. Après, il faudra nuancer pour Versailles. Je pourrais vous donner des éléments de réponse. Eh bien, on a ce sentiment d'abandon finalement de cet électorat traditionnel dans des villes importantes d'Île-de-France.
Voilà. Je voudrais saluer l'arrivée parmi nous de Louis Lecomte. De l'incorrect.
Exactement, je m'excuse pour mon retard, mais
oui, mais c'est normal, c'est incorrect d'arriver en retard, donc
exactement.
C'est pratiquement une page de publicité.
Non, je ne pouvais pas décevoir l'audimat de Radio Courtoisie.
Donc alors j'ai tenu en effet à ce qu'il y ait une sorte de témoin, puisque là vous avez deux acteurs de politique qui ont vécu ce phénomène qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire cette disparition du vote conservateur dans la région parisienne, notamment dans des communes comme Colombes et Versailles. Et effectivement, on peut voir le problème sous deux angles. On peut considérer d'une part que c'est une évolution sociologique. On peut l'expliquer d'une façon rapide en disant bon, c'est très simple, ce sont des gens qui ont voté, comme le dit Luc Ferry, c'est la droite portefeuille. Ils ont voté pour leur portefeuille. Mmh. Bon, on peut le voir d'une façon plus profonde en disant, en inversant la réflexion, en disant ça veut dire qu'aujourd'hui, les débats de société n'ont plus aucune espèce d'impact sur la réalité politique de notre monde. Alors, pourquoi ? Moi, je voudrais, avant de vous laisser à nouveau la parole et peut-être d'appeler Emmanuel Ménard, puisqu'on a un rendez-vous dans quelques minutes, je voudrais vous poser la question. Dans le fond, il y a deux évolutions possibles. Il y a celle que vous avez souligné tout à l'heure, Monsieur Bouglet, en parlant de Guy-Louis, c'est-à-dire effectivement cette France coupée en deux, les gens qui sont tellement bien dans la mondialisation que finalement le tout c'est de faire des affaires, de gagner de l'argent et puis le reste ça compte pas. Et les autres qui sont tellement mal que finalement eux c'est on tient à avoir notre mois pour continuer à vivre bien jusqu'à la fin du mois. Or, on n'y arrive pas. Autrement dit, on est dans des problèmes purement matériels. Et puis, la deuxième explication qui est fournie, vous savez, par cet ouvrage dont on parle beaucoup en ce moment, qui est l'ouvrage sur l'archipel français. Alors, l'archipel français...
Fourquet.
Voilà, de Jérôme Fourquet. C'est intéressant parce que je pense que c'est un peu l'assassin qui, dans le fond, décrit sa victime, quoi. Parce que Jérôme Fourquet, c'est pas un sociologue. C'est un spécialiste des sondages. Et je pense qu'effectivement, le matraquage par les médias actuels et par les sondages actuels a créé cet archipel français. C'est-à-dire cette multiplicité d'îles françaises où chacun ne pense plus qu'à un problème particulier et non plus à l'ensemble, c'est-à-dire quand même à l'avenir du pays, quoi. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Je vous laisse la parole aux trois, peut-être maintenant. Est-ce que l'incorrect veut dire un mot?
Oui, en fait.
Pour commencer, parce qu'il ne s'est pas encore exprimé. Ensuite, ce sera Jean-Paul Huffer. Ensuite, Fabien Bouglet. Et après, nous appellerons Emmanuel Ménard, qu'on peut déjà peut-être mettre en attente, là. Voilà, très bien.
Alors, que ce soit sur les problématiques sociétales ou les problématiques plus directement financières et concrètes, à la correcte, on pense que c'est une question d'essence. C'est-à-dire que les gens voudraient bien s'intéresser aux problèmes de société à partir du moment où le social a une certaine stabilité. Et aujourd'hui, en fait, la revanche du social sur le sociétal est en fait la revanche du quinquennat Hollande, où le président a accepté que l'acte politique n'avait quasiment plus d'impact réel dans la vie du citoyen. Et donc, il a déporté l'action de son quinquennat pour réussir à faire quelque chose, parce qu'il faut bien s'occuper du soir au matin. Il a déporté son action sur le sociétal, et uniquement sur cette question-là. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien sur la question de la canicule que l'État est incapable de régler les problèmes économiques directs, faire baisser les impôts, et puis orienter l'action des services publics. Par contre, l'État a beaucoup de temps, beaucoup de paroles, beaucoup d'inspiration pour vous dire comment vous hydrater. On a vu Mounir Majoubi sonner à la porte de retraite pour leur dire de boire de l'eau. Le politique, depuis un certain temps, n'a plus de pouvoir réel parce qu'il a abandonné ses prérogatives pour tout un tas de raisons et donc s'oriente vers le sociétal.
Donc il cherche des alibis, quoi. Il cherche d'autres sujets.
Ah, mais il cherche tout simplement à s'occuper. La nature horreur du vide, il faut bien s'occuper dans sa journée.
Et donc, oui, et puis il cherche aussi à occuper les gens, quoi.
Oui, exact. Exactement. Donc on a déjà cet aspect-là. Le politique a perdu le pouvoir sur la société parce qu'il a abandonné un certain nombre de moyens coercitifs et concrets d'action politique et donc d'action après dans la vie réelle des gens. Et donc, au bout d'un moment, il y a un retour de bâton parce que les gens votent, et en France, on est un pays qui a la passion du politique, donc les gens finissent par rattraper le politique, et c'est la revanche du social. Et les deux sujets sont évidemment importants, sociétal et social, économique et plus idéologique, et il faudrait réussir à retrouver un équilibre entre les deux dans la parole du politique, entre ces sujets, et ça peut se matérialiser de manière très concrète, c'est que le conservateur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui cherche à trouver une ligne politique. Une ligne de crête politique entre le progressisme et le traditionnalisme, entre une situation figée qui finit par se fissurer d'elle-même et une course en avant qui finit par vous entraîner loin. Le conservateur, c'est celui qui cherche l'équilibre entre les deux. Et le conservateur politiquement pourrait être celui qui arrête ce grand mouvement de balancier avec un quinquennat où on parle que de fric et un quinquennat où on parle que de société. Le conservateur peut être celui qui retrouvera un équilibre entre les deux.
Mais est-ce que être conservateur aujourd'hui, ça n'est pas vouloir vraiment ramer contre le courant, quoi. Parce qu'être conservateur, ça demande à avoir une certaine profondeur de champ, notamment avoir une certaine connaissance historique.
Oui,
moi, j'étais dans le métro tout à l'heure, je vous livre une anecdote, parce que ça m'a beaucoup frappé. J'étais dans le métro et j'entendais une conversation entre une femme et puis un monsieur. Et cette femme disait, oh, de toute façon, je ne vais plus faire d'enfant. Ah bon, intéressant. Et je plus faire d'enfants parce que c'est trop mauvais pour la planète.
Eh ben, bien sûr.
Alors ça, là, j'étais scié, quoi, parce que je me disais, d'une part, elle ne se rend pas compte que ne plus faire d'enfants, c'est tuer le pays. C'est, entre parenthèses, ça. Sans doute mettre à mal sa propre retraite, mais enfin, ça, elle n'y pense pas. Mais en revanche, immédiatement, j'ai entendu ce slogan qu'on entend partout, sauver la planète, sauver la planète. Les gens ne savent pas du tout à quoi ça correspond, mais c'est le slogan, et c'est pour ça que je faisais allusion à...
L'idéal, c'est une planète pauvre, mais sans hommes.
Voilà, c'est ça.
La belle
affaire.
C'est ça.
Ce qui est aberrant, quoi, parce c'est une absence totale de champ de réflexion. Quoi.
C'est Cochet qui a dit qu'il fallait qu'on arrête d'avoir des enfants en France pour permettre aux migrants de venir remplacer la population. Il l'a dit tout à fait récemment, pour des raisons écologiques, mais finalement qui vont avoir une influence migratoire.
Enfin, après, il faut voir aussi ce qui est de l'ordre de la cause et ce qui est de l'ordre de la conséquence. C'est-à-dire que, en l'occurrence, ce que dit Cochet sur le fait que la démographie continue et éternelle de la planète n'est, évidemment, pour des raisons parfaitement rationnelles, pas une bonne idée. Il faut avoir... tout le monde doit réfléchir à la prudence qu'on doit avoir par rapport à la population, mais c'est vrai que, vu le choc démographique qui est en prévision en provenance des pays de l'hémisphère sud, il est aujourd'hui, c'est un suicide civilisationnel de ne pas avoir d'enfants. Mais cela dit, si ce message adressé aux Européens est parfaitement grotesque parce que nous avons de la place chez nous et une démographie qui est contrôlée et intelligente depuis un millénaire, c'est quand même un message qu'il faut entendre. La démographie est peut-être la clé du millénaire qui arrive.
Alors maintenant, nous allons demander son avis à une députée qui travaille énormément. Il suffit de regarder un peu les émissions consacrées à l'Assemblée nationale pour se rendre compte qu'elle travaille énormément. Elle a d'autant plus de mérite à travailler qu'ils ne sont pas très nombreux dans le groupe. C'est d'ailleurs pas un groupe. Ils ne sont pas suffisamment nombreux pour former un groupe, disons, dans la famille politique dont elle est proche. Alors, Emmanuel Ménard.
Bonsoir
Emmanuel Ménard. Alors, merci de nous consacrer quelques minutes. Bon, vous n'avez pas peur d'avoir cette étiquette conservatrice, à condition de l'employer au sens large du terme, c'est-à-dire à la fois patriote, libérale en matière économique, mais aussi conservatrice d'un certain nombre de valeurs, de l'identité nationale, de la famille, etc. Vous aviez, avec votre époux, le maire de Béziers, Robert Ménard, lancé il y a quelques années Host à droite, et on avait tous vu dans Host à droite une sorte de réveil du conservatisme. Vous avez ensuite poursuivi avec la constitution des amoureux de la France, et effectivement on se disait qu'entre eux, les modérés, quelquefois mous pour être clair, des républicains, et puis les gens du Rassemblement National, il y avait là un entre-deux tout à fait intéressant qui pouvait recevoir cette étiquette de conservatisme. L'ennui, c'est que les amoureux de la France sont exposés en vol et que, comme je le disais à l'entrée de l'émission, eh bien, le vote conservateur proprement dit a pratiquement disparu dans ces élections, avec cet affrontement aujourd'hui
entre le Rassemblement National et puis les gens de En Marche, qui est pas là tout à l'heure, mais enfin j'ai expliqué que c'était concentrique. On vote tout à fait En Marche dans les grandes villes, dans les centres urbains, chez les métropolitains, et puis plus on s'éloigne, plus on a un vote du Rassemblement National qui monte. Mais où est passé le conservatisme dans tout cela? Moi, je ne le vois pas.
Bah, écoutez, d'abord, je sais pas s'il faut parler absolument de conservatisme. Je sais pas s'il faut absolument mettre des étiquettes. C'est, moi, je commence à revenir de ces étiquettes et de ces labels, parce que conservatisme s'appelait à certains, s'appelait pas à d'autres. Union des droites s'appelait à certains, s'appelait oui. pas à d'autres. Et finalement, en fait, on se rend compte quand même, on parle globalement à peu près tous de la même chose, mais les mots voilà, n'ont pas l'air de plaire à tout le monde. Donc peut-être qu'il faut arrêter de coller ces étiquettes-là. Parler de conservatisme, pourquoi pas, moi ça ne me choque pas, mais je sais que certains n'aiment pas le terme, donc je me réfugierai plutôt derrière... Oui, j'aimais bien le concept des amoureux de la France. Comme vous l'avez dit, ça a explosé en vol parce que les égos font que c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais c'est quand même toujours sur la notion de France que je me recentrerai. Ceux qui aiment leur pays, ceux qui aiment leur village, ceux qui aiment leur commune, ceux qui aiment leur département, ceux qui aiment la France, tout simplement.
Vous pensez que l'identité a un rôle primordial dans le débat politique ?
Aujourd'hui, oui, absolument, absolument. Je pense que c'est comme ça. D'ailleurs, on le voit bien, puisque la fracture, comme vous l'avez dit, elle existe aujourd'hui. C'est pas une question. Vous savez, dans l'hémicycle, j'entendais là encore à l'instant le ministre de l'écologie, François de Rugy, parler, vouloir absolument opposer les conservateurs, comme vous disiez, aux progressistes. Alors évidemment, les conservateurs, c'est les vieux grognons, et les progressistes, c'est ceux qui ont toujours raison et qui sont dans le camp du bien. Vous vous en doutez. Je pense que la fracture, en fait, comme on l'a vu cet hiver avec les gilets jaunes, elle se pose pas forcément comme ça, mais elle se pose entre les habitants des grandes villes, les habitants qui ont accès à tout, les habitants des métropoles, et puis ceux qui sont les oubliés, ou en tout cas qui ont le sentiment d'être oubliés, et souvent à raison, de ce modernisme à tout craint dont on nous rabat les oreilles et qu'il faut absolument avaler, puisque si on n'est pas moderne, forcément, ça veut dire que bon, on est vieux, comme je vous disais, des vieux grincheux, et qu'on ne vit pas dans l'air du temps. Voilà, moi c'est plutôt comme ça que je vois les choses, et effectivement, vous le disiez, je pense qu'il y a un certain nombre de valeurs qui réunissent les gens qui sont attachés à leur culture, à leur histoire, à la France. Ces valeurs, elles s'appellent la sécurité, elles s'appellent l'ordre, elles s'appellent la protection de la famille, elles s'appellent effectivement le respect des traditions, un certain patriotisme, mais aussi des libertés, les libertés économiques évidemment. Moi je me considère, enfin je ne suis pas pour un interventionnisme de l'État dans tous les domaines. La liberté d'expression, évidemment, en fait partie. Et puis la valeur travail, parce que je pense que c'est indispensable. Voilà. Je pense que quand on se retrouve derrière ces valeurs-là, et vous le disiez, je pense que beaucoup chez les Républicains se retrouvent derrière ces valeurs. Beaucoup des électeurs du Rassemblement National se retrouvent aussi derrière ces valeurs. Et puis tous ceux qui ne savent pas trop où se mettre sur l'échiquier politique, mais qui sont des amoureux de cette France-là, eh bien, on pourrait tous se retrouver et travailler tous ensemble pour que nos idées enfin deviennent majoritaires. Enfin, elles le sont, je pense, mais trouvent à se réaliser lors des prochaines élections.
Je pense qu'elles deviendront majoritaires dès lors que les problèmes économiques provoqueront cette majorité. Or, ça risque de se produire très bientôt. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une crise économique, et manifestement, les régions qui ont voté pour le progrès ou qui ont cru voter pour le progrès risquent de basculer dans un autre sens si ce progrès apparaît moins net, d'autant plus qu'on ramène ce progrès, comme on le disait il y a un instant, à des considérations purement matérielles.
Oui, mais de toute façon, ça se voit aussi dans des débats qui vont avoir lieu bientôt au Parlement. C'est toutes les questions de bioéthique. Vous parlez de matérialité. Quand on se retrouve face à des questions de désir, de droit à l'enfant, voilà, ça fait partie de ce matériel, de ce bien-être matériel, si je veux dire. L'enfant devient un objet qu'on est en droit d'avoir, qu'on est en droit de posséder, sans se poser une seule fois et un seul moment la question du droit de l'enfance, qui, à mon avis, est une différence de taille. Voilà. Et je pense que sur ces combats-là, il y a aussi un certain nombre de valeurs sur lesquelles on ne doit pas céder, sur lesquelles il faut se bagarrer pour défendre la société qu'on a envie d'avoir pour demain.
Jean-Paul Bellufer a l'intention de vous poser une question.
Oui, simplement une question très simple. Du point d'observation et d'action qui est le vôtre aujourd'hui, au lendemain de ces européennes, quelle est l'action qui vous semble la plus urgente, la plus nécessaire et, si j'ose dire, la plus efficace? Que faire, comme disait Lénine?
Mais vous parlez en termes d'échéance électorale ou
d'action
ou
politique, d'action politique en général et d'échéance électorale, pourquoi pas? Mais d'action politique en général.
Mais d'action politique, je pense qu'il faut absolument que les politiques en général, mais moi je mets derrière les politiques pas seulement les professionnels de la politique. Chaque Français peut devenir un acteur politique. Il faut absolument qu'on se réunisse, qu'on essaie de se rassembler dans un grand courant qui se retrouve justement derrière ces valeurs dont je viens de vous parler, pour qu'enfin on puisse travailler tous ensemble au succès de la France. Et moi j'avais dit en fait au démarrage des amoureux de la France, qu'il me semblait que participer sous cette bannière-là aux élections européennes n'était pas une bonne idée, parce qu'il me semblait que c'était de facto un scrutin de parti politique où on ne pourrait pas justement faire valoir cette idée de rassemblement des différentes droites ou des différents, enfin voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure, et que ce rassemblement ne viendrait que de la base, ne pourrait venir que de la base, et les élections idéales pour ça, c'est les municipales. Bon, alors il nous reste 8 à 9 mois pour se rassembler, pour essayer de mettre en place des initiatives de coalition des droites, pour effectivement que aux prochaines municipales, nos idées gagnent et puissent trouver à se réaliser sur le terrain, au plus près des gens, pour aider les Français, à améliorer le quotidien des Français.
Si vous me permettez de me faire un peu l'avocat du diable, en l'occurrence, le rapprochement qui semble se dessiner entre certains maires dits républicains qui sont inquiets des résultats de leur commune avec En Marche montre que ce rassemblement des droites ne risque pas de se faire, et même qu'en l'occurrence, ces gens avouent ne pas être du tout conservateurs puisqu'ils rejoignent le prétendu progressisme.
Oui, mais si vous regardez bien justement de quelle commune il s'agit, en l'occurrence, ce sont les grandes communes, ce sont les métropoles. Et on ne parle pas là des territoires oubliés, des petites communes, des villes moyennes ou des villages. Là, je pense que la donne sera radicalement différente. Je ne suis pas sûre que dans ces communes-là, l'étiquette La République En Marche est bonne presse.
Vous êtes élue de Béziers.
Tout à fait. Ville moyenne, bon. 80 000 habitants.
Voilà, et manifestement, le vote de Béziers et celui de Montpellier ne sont pas identiques.
Pas du tout identique, voilà. Mais on essaie on est en train d'initier à Béziers et pas qu'à Béziers, dans tout l'Hérault, justement, une stratégie de rassemblement, de grande coalition entre des personnes qui sont actuellement dans différents partis politiques de droite, mais qui, comme nous allons le faire l'année prochaine à Béziers, se réuniront sous une même bannière, d'amour de leur commune, d'amour de leur pays, sans parler d'étiquette politique, sans parler de logo politique, pour essayer de faire gagner nos idées. Et voilà, c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre
en somme, l'identité de bas en haut. Depuis l'identité communale jusqu'à l'identité nationale, quoi.
Absolument, absolument. Ouais, en démarrant par la base, il me semble que c'est comme ça qu'on doit commencer.
Un très grand merci, Emmanuel Ménard, de nous avoir consacré quelques instants.
Je vous en prie, merci.
Bonne soirée à vous. Au revoir.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la Résistance française, dirigé par Christian Van Est. Il interroge ses invités. Mais où sont passés les conservateurs? Dans le studio, Jean-Paul Bellufer, adjoint au maire de Colombes, Fabien Bouglé, conseiller municipal de Versailles et président de l'association Versailles Famille Avenir, et Louis Lecomte, journaliste à l'Incorrect, et nous venons d'entendre Emmanuel Ménard, député.
De l'Hérault. Jean-Paul Bellufer.
Alors, pour prolonger justement les propos de notre ami Emmanuel Ménard, Moi, je suis venu en changeant un peu de casquette et en prenant ma casquette d'enseignant en sciences politiques avec quelques chiffres. Parce que je crois qu'il faut quand même, sans majorer leur effet dans une société qui zappe beaucoup politiquement, il faut regarder quand même quelques chiffres. Ces chiffres sont les suivantes. Aux élections européennes qui viennent d'avoir lieu. Alors, la droite, alors... Je ne vais pas rentrer dans la querelle sémantique de savoir si on doit encore parler de droite et de gauche. Autrefois, les gens de gauche disaient que c'était les gens de droite qui niaient la différence entre droite et gauche. Mais en tout cas, la droite, toute tendance confondue. Et là, je ne parle pas de la droite attirée par La République En Marche. Je parle de la droite qui a voté, par exemple, chez Les Républicains pour François-Xavier Bellamy. Cette droite atteint 36-47% des suffrages. Et la gauche, qui est loin d'être morte et dont on oublie de parler en ce moment, est quand même à 33,35%.
Où est-ce que vous classez les
avec les écologistes, Macron. Avec les écologistes, pour l'instant, je ne les place pas dans ce calcul. Ou, si on exclut les écologistes de la gauche, 18,06% des voix. Loin devant La République En Marche et ses 22-41%, auxquels je veux bien ajouter les 2% de voix de l'UDI, si on veut. Telle est en tout cas la photographie exacte de l'électorat aujourd'hui.
C'est vrai.
Photographie d'autant plus exacte, je me permets de souligner, que la participation à ces élections européennes a été très bonne. Donc c'est une bonne consultation du pays, si j'ose dire. Et que les enjeux de la campagne, tout le monde l'a dit, étaient plus nationaux, finalement, qu'européens. Alors, bien entendu, et je reviens au cœur de notre débat, de notre échange, on ne peut pas identifier les 36% dont je viens de parler de toutes les droites comme des suffrages conservateurs. Mais on peut en revanche considérer qu'il y a un autre débat aujourd'hui qui est le suivant. La République En Marche se présente officiellement, dans ses discours, comme libérale et progressiste, c'est-à-dire, parce que finalement, ces deux termes ont la même signification, pour une société relativiste, c'est-à-dire une société dans laquelle la recherche du bien n'a aucun intérêt. Et sur ce point, petite incidente simplement, il ne faut pas enterrer trop vite ce qu'on appelle les débats de société, parce que nous, dans la famille dite conservatrice, on a tendance à assimiler les débats de société avec les débats sur les questions d'éthique familiale. Et on a par exemple une sorte d'obsession à l'égard de LGBT, qui s'appelle d'ailleurs depuis quelques jours LGBTQ+.
QI2A+.
On peut même aller jusque-là,
oui,
absolument.
Oui, bon. N'en jetez plus, la cour est pleine.
Mais en tout cas, les débats de société, il n'y a pas que ça. Par exemple, le débat récent sur la légalisation ou non du cannabis. C'est un débat de société. Le fameux service national universel, dont je pense beaucoup de mal, ça fait partie également des débats de société, etc. etc. Donc,
petit élément
attendez.
Dans votre sens. Courte parenthèse pour dans votre sens.
Non, mais attendez, vous avez la parole dans 2 secondes.
Je termine.
Mais on ne parle pas en même temps.
C'est alors, parce que... Je termine. Ouais. Donc, à partir de là, et donc on peut continuer le débat là-dessus, moi, il me semble possible, parce que je pense qu'il faut faire une proposition concrète, d'où ma question tout à l'heure à Emmanuel Menard, il me semble possible, j'en termine, de présenter un front anti La République En Marche, regroupant toutes les droites, car, et là je lance un pavé provocateur dans la mare, car contrairement aux idées reçues, je considère que l'anti fonctionne bien. Par exemple, faire barrage au FN, ça a quand même bien fonctionné, à condition, bien entendu, encore une fois, de ne pas s'enfermer dans un certain nombre d'aspects qui seraient étroitement sociétaux et à présenter sur le plan économique, sur le plan social, mais aussi sur le plan éducatif, culturel et écologique, une vision radicalement différente. Donc ma proposition, c'est constituons un front anti-République En Marche qui serait en quelque sorte tout sauf La République En Marche.
Alors, d'abord, c'est Louis Lecomte qui va répondre et ensuite Fabien Bouglet.
Oui, moi j'aimerais aller dans votre sens sur les débats de société, sur un sujet précis. J'aimerais dire ceci. Sur la petite décennie qui vient de se passer, disons les 5-6 ans qui viennent de se passer, la gauche Mélenchon, qui est un corps électoral assez costaud, une bonne minorité de blocage qui faisait environ 15%, et vous aviez les écologistes qui font parfois des percées aux européennes, mais enfin qui étaient bloqués aux différents scrutins à environ 5-6%, 3%, 4% dans ces eaux-là. Or, à ces européenne, qu'est-ce qui s'est produit ? La gauche Mélenchon est passée brutalement à 6%, je crois, et les écologistes à 17%. Et donc, ce qu'on aperçoit à gauche et de plus en plus à droite, c'est qu'il y a une volatilité de l'électorat qui est considérable et que des sujets comme celui de l'écologie est capable de faire changer en l'espace de, d'un mois et demi, deux mois, les sondages de manière tellement critique qu'il y a, vous avez quasiment 15% de l'électorat qui a changé de chapelle et qui est passé d'un parti comme celui de Monsieur Mélenchon qui est très illibéral, qui est socialiste à l'ancienne et qui est quand même très verrouillé sur le contrôle de l'État. Cet électorat est capable sur un sujet de société comme l'écologie de passer directement chez Jadot, qui est un parti parfaitement libéral et au contraire qui ouvre grand les frontières de la mondialisation. Donc vous avez un sujet de société précis, un peu messianisé par le marketing médiatique, qui est capable de faire changer du tout au tout une part colossale de l'électorat. Alors ça se passe à gauche et ça pourrait se passer à droite aussi si on trouve le sujet qui arrive à rassembler et à souder une famille.
Alors moi je voudrais rebondir sur deux choses. La première chose, je suis entièrement d'accord sur un point, je pense que la droite, d'une manière générale, et la droite de valeur, a totalement abandonné la question écologique. Or, le problème, c'est qu'il faut qu'on revienne parce que c'est nous les premiers écologistes. La défense des paysages, la défense du patrimoine naturel, la défense de nos écosystèmes, la défense contre l'invasion des éoliennes, qui est aujourd'hui un sujet majeur. J'en parle parce que je suis investi dans ce domaine également.
Vous avez une association, je pense.
Oui, j'ai été vice-président de la Fédération Europe, Fédération Environnement Durable, et je suis un lanceur d'alerte sur le sujet. Mais nous devons absolument parler écologie à droite, mais pas une écologie boboisée qui va faire du réchauffement climatique l'alpha et l'oméga de la question. Il y a des questions prioritaires sur l'écologie, il faut l'aborder. Ensuite, je voudrais revenir quand même sur un point important. Vous avez dit tout à l'heure, me semble-t-il, qu'il ne fallait pas avoir d'obsession sur la question LGBT. Alors là-dessus, je m'inscris totalement en faux. Parce qu'une des grandes raisons pour laquelle la droite conservatrice n'a pas été présentée aux élections européennes dernièrement, c'est bien le lobby LGBT qui était en sous-main et qui a...
Évitez le mot lobby, c'est le groupe de pression.
Le groupe de pression LGBT qui en sous-main a empêché le fait que Nicolas Dupont-Aignan se marie avec la droite conservatrice que nous représentions. Et j'ai des éléments suffisamment poussés, puisque j'étais moi-même potentiel candidat sur la liste des amoureux de la France, en lien d'ailleurs sur les questions écologiques. Et je peux vous le dire en interne, que le lobby LGBT transversal des courants de droite ont joué un rôle catastrophique pour la présence des conservateurs, et que si nous n'avions pas eu ce lobby en action, ce groupe de pression en action derrière, nous aurions eu des élus aujourd'hui. Je vous rappelle que Nicolas Dupont-Aignan était à 8% dans les sondages avant que ne soit exclu Emmanuel Gave, avant que ne soit exclu Jean-Frédéric Poisson, et avant que ne soit exclu tous les transfuges du Front National et moi-même. Et pour quelles raisons nous avons été éliminés, je vous pose la question. Eh bien, c'est en lien avec le lobby LGBT et il ne faut pas minimiser son action.
Alors, Jean-Paul Bellufère et ensuite... Oui. Ensuite sera Louis Lecomte.
Pour être bien clair, ce que je voulais dire, c'est que de même qu'il faut se réapproprier l'écologie pour en faire une écologie du quotidien, et non pas une écologie boboïsée. De même, je voulais dire qu'il fallait élargir les questions de société à d'autres choses que le seul face-à-face, si j'ose dire, avec LGBT, etc., 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 en abordant d'autres sujets de société qui peuvent avoir un impact fort. C'était ça que je voulais dire.
Je comprends.
Pas exclusivement.
Oui, oui.
Bah, moi, je voudrais quand même, avant de donner la parole à Louis Lecomte, je voudrais quand même souligner le fait que, bon, vous avez cité un groupe de pression, il n'est pas le seul.
Non.
Et il y a quand même un phénomène assez inquiétant dans notre société, c'est qu'effectivement, un certain nombre de groupes de pression extrêmement puissants, notamment dans les médias, ont dépassé par leur influence le rôle des partis. Les partis, d'ailleurs, manquant de repères idéologiques, les Républicains n'en ont plus du tout, et se raccrochant précisément aux idées qui sont diffusées par ces groupes de pression, qui lancent les modes. Tout à l'heure, je pense que Jean-Paul Bellufère qui évoquait le problème du cannabis, c'est ça. Brusquement, on voit comme ça apparaître périodiquement une idée À chaque fois, c'est une petite touche. C'est la PMA, c'est l'utilisation du cannabis à des fins récréatives, c'est ceci. Et à chaque fois, ces touches sont des touches du parti, du grand parti progressiste, qui travaille non pas par un parti, mais par des groupes de pression qui attaquent au niveau des médias. Et les gens se laissent complètement rouler dans la farine à cause de ça.
Oui,
Louis Lecomte.
Moi, j'aimerais dire une chose, c'est que on parle ici du groupe de pression LGBT. Il faut bien rappeler qu'un groupe de pression, c'est pas une finalité, c'est simplement un moyen. Et en concentrant nos efforts sur un moyen, on oublie, enfin sur l'outil, disons, on oublie qu'il y a la main qui le tient. Et la main, en l'occurrence, c'est effectivement globalement le courant de pensée progressiste qui fait feu par un certain nombre de moyens, qui se sert d'un certain nombre de leviers, dont les groupes de pression. Mais si on concentre nos efforts sur ce groupe de pression en particulier, on perd complètement de vue l'adversaire parce qu'on se concentre sur une petite partie de l'iceberg. Et aujourd'hui, pour l'immense majorité du corps électoral, les problématiques de droit, de reconnaissance sociale pour les trans ou que sais-je, objectivement, la part critique du corps électoral que ça intéresse et qui motivera son vote par ça est absolument minime. Et à droite, c'est pareil. Donc je pense que il faut impérativement, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup, les moyens sont toujours limités, on n'a pas non plus une énergie folle à dépenser, on n'a pas des effectifs immenses, donc il faut se concentrer pour voir quels éléments du champ politique sont rentables en termes d'énergie déployée et derrière de vote récolté ou d'actions concrètes, législatives, politiques, etc. Gagnées. Et je pense que afficher comme comme but d'action politique une lutte contre cet élément particulier. Peut-être pas nécessairement électoralement rentable. Ensuite, ça peut donner l'impression que notre famille politique se concentre sur ces sujets-là, alors que en réalité, le sort qui nous intéresse le plus, ça reste quand même celui des plus faibles, et aujourd'hui de la proportion grandissante de classe moyenne qui est en train de se paupériser. Je pense que ces sujets-là sont évidemment importants dans le projet de société globale que les conservateurs ont envie de donner. C'est très important dans l'anthropologie qui guide ensuite notre action politique sur des actions plus concrètes, mais je pense que s'il y a ce lobby qui est en place, on créera le nôtre et on se battra, mais c'est dans des rencontres, dans des couloirs, ça se fera pas feutré, mais en tout cas ça doit pas être sur le champ direct.
Je voudrais vous poser une question. Là on a évoqué dans le fond les adversaires, quoi. Ouais, les groupes de pression. Est-ce que vous ne croyez pas que il faudrait renverser la tactique en disant que proposons-nous? Quelles sont nos propositions?
Oui, absolument.
Et choisir parmi ces propositions celles qui mettront les adversaires le plus mal à l'aise. Moi, j'en connais deux, par exemple, et je voudrais vous interroger là-dessus, parce que c'est pas forcément là-dessus qu'on attend le plus les conservateurs. Et pourtant, ce sont des idées conservatrices. La première, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression. C'est au XIXe siècle, les gens qu'on appelle les conservateurs, c'était des gens qui se battaient pour la liberté d'expression, contre la tendance de l'État à vouloir tout contrôler. Je rappelle que la loi Falloux, par exemple, qui est une loi conservatrice, c'était pour faire en sorte que l'État n'intervienne pas trop sur l'enseignement privé, donc surtout pas plus de 10% d'aide parce qu'on ne veut pas qu'il s'en mêle. C'était une idée conservatrice, de la même façon. Vous avez un pays qui est pratiquement le plus conservateur d'Europe, c'est la Suisse, qui donne la parole régulièrement au peuple à travers le référendum citoyen populaire. Je pense que c'est deux choses. La lutte pour la liberté d'expression, notamment contre la tendance manifeste du président Macron et de ses amis à vouloir, au contraire, la limiter par tous les moyens, y compris sur Internet. Et le fait de ne pas avoir recours au référendum citoyen populaire qui est proposé, ce sont des failles dans des positions qu'à mon sens, les conservateurs devraient davantage utiliser. Je voudrais vous entendre
Pour des raisons d'ordre stratégique, mais pour des raisons aussi d'ordre tactique. C'est-à-dire que oui, globalement, ça fait partie du projet politique qui nous sied, parce qu'à droite, on est plus girondins que jacobins, et on aimerait bien que le pouvoir s'exerce plus directement au pouvoir local et qu'il s'exerce d'une manière un petit peu plus décentralisée. D'ailleurs, à ce sujet, on parle de la Suisse, mais il faut savoir que les référendums en Suisse ne sont pas d'envergure nationale, mais ils sont à l'intérieur des cantons.
Non, il y a un référendum.
La part la plus massive des référendums se fait.
Il y en a à tous les niveaux. Il y en a au niveau communal, au niveau cantonal et au niveau national.
Et ensuite, deuxièmement, déjà sur un plan plus global, ça nous intéresse. Et ensuite, deuxièmement, sur un plan plus immédiat et plus précis, à court terme, on n'a aucune chambre. Le Sénat est essentiellement à droite, mais s'abstient dès qu'il y a un vote un petit peu important. En tout cas, là, sur le vote de confiance, le Sénat était quand même particulièrement light, en tout cas, sur le
l'opposition. Pas light, je ne pense pas qu'il soit
léger,
light. Léger, voilà, c'est ça.
dilettante, disons. Et puis, deuxième, voilà, donc on n'a pas de chambre. Il y a très peu de moyens politiques qui sont directement aux mains de la droite. Donc, effectivement, le référendum pourrait être un bon levier pour donner des failles.
Alors, je pense que vous avez entièrement raison sur la notion de démocratie locale, en particulier la question de la démocratie locale, parce que en tant qu'élu municipal, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que globalement aujourd'hui, on avait une forme de totalitarisme municipal, avec le fait qu'on n'a plus de système proportionnel dans les communes. Les citoyens dans les communes ne sont plus représentés à juste proportion de leur vote. Donc si vous avez 30%, vous êtes élu avec 35%, et que vous êtes la première liste, la liste qui est arrivée en tête, à la majorité des conseils municipaux, il n'y a plus de possibilité d'échange. Or, la démocratie locale, c'est aussi proche du terrain. Et donc, les élus municipaux dans les grandes villes commencent à être déconnectés du terrain. Je vous donne un exemple qui est versaillais, qui est le fait que le maire de Versailles voulait détruire une allée d'arbres du 18e, donc avenue de la République. Et des gens
se sont... Il y a une avenue de la République à
Versailles. Oui, oui, oui. Et les gens se sont enchaînés aux arbres. Et j'ai réussi à obtenir un référendum pour d'ailleurs des raisons écologiques, puisqu'en fait, on a l'obligation, les élus ont l'obligation de faire participer, en vertu de la Convention d'Aarhus, les citoyens dans les décisions ayant un impact environnemental, et j'y reviendrai après. Et figurez-vous que là où le maire voulait imposer une destruction et, des arbres, eh bien 70% des personnes ayant participé au référendum ont refusé le projet du maire.
Quelle proportion, par curiosité,
70-30. 70.
C'est une question de Louis Lecomte.
De votants. Quelle proportion de la ville s'est
déplacée ? Il y avait peut-être 20. D'abord, c'était uniquement les personnes dans les rues adjacentes et la rue concernée. On avait à peu près 20-25% des personnes à venir participer.
Ce qui est déjà important, parce qu'il n'y a jamais de référendum de ce type. Donc, tout à fait.
Et ça, justement, je voudrais y revenir. C'est qu'on a une contradiction dans notre pays. C'est qu'on a des écologistes, mais ils font tout pour supprimer la démocratie participative environnementale. Ils vont supprimer les voies de recours en matière environnementale concernant tel ou tel projet. Ils vont supprimer les commissaires enquêteurs dans les enquêtes publiques ayant des impacts. Par exemple, lorsque vous avez une industrie qui se met en place dans un endroit, eh bien, ils sont en train de supprimer les commissaires enquêteurs. Et donc, tous les chevaux de la démocratie participative environnementale est en train d'être supprimé en France. Et donc, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des écolo-business comme Europe Écologie
Les Verts. J'ai pas compris le mot, là. C'est un des quoi ?
De l'écolo-business. Non, des affairistes.
Des affairistes de l'écologie. Affairistes, voilà.
Des écolo-affairistes. On a des,
ça
on
va
a
vous coûter des... très cher, cette émission.
Ah oui, je crois. Des écolo-affairistes qui ne sont plus du tout des démocrates environnementaux. Et donc, je pense que la démocratie locale, j'ai entendu l'appel d'Emmanuel Ménard à ouvrir un grand champ, une grande alliance pour les municipales, et nous, à Versailles, on sera engagés pour les municipales, et je pense que la démocratie locale doit revenir au cœur de la décision. Et d'ailleurs, c'est toute la crise des Gilets jaunes que de ne pas voir de ce que Macron n'a pas vu, c'est que c'était une crise démocratique, les Gilets jaunes veulent redessiner et redécider pour leur avenir et ils veulent être maîtres de leurs décisions et je crois que ça c'est un aspect très important de cette crise que nous traversons.
Alors tout à l'heure Jean-Paul Bellefer avait dit que dans le fond aujourd'hui nous étions dominés par des minorités. C'est la minorité la plus grande en quelque sorte qui domine. Bon, ça c'est pas très démocratique. Alors comment marier ces deux idées, d'une part d'éviter la dictature des minorités pour être clair, et d'autre part redonner la parole à la base, comme on dit, c'est-à-dire au peuple et notamment au local.
Alors avant de répondre, il nous faut quand même aussi répondre à l'interpellation très importante de Christian Van Est tout à l'heure, qui nous a dit, mais voilà, quelles initiatives pourrait-on prendre, liberté d'expression, etc. Je crois qu'effectivement, c'est une question tout à fait importante à laquelle il faut s'efforcer de répondre. Et je pense que ce thème de la liberté d'expression, mais même de façon plus générale, il y a un autre thème aujourd'hui qui est important pour l'opinion publique, qui est tout simplement le thème de l'éducation. On constate que les parents sont extrêmement inquiets pour l'éducation, et même chez les enseignants dont on avait tendance à penser qu'ils étaient uniquement manipulés par des syndicats de gauche, on s'aperçoit qu'il y a une grande inquiétude sur l'état aujourd'hui de l'école, sur la violence à l'école, sur le décrochage scolaire, etc., etc. Donc je pense qu'il faut reprendre l'initiative sur ce point. Mais, en même temps, comme dirait l'autre, se pose pour nous, élus locaux, chers amis, la question de quoi faire pour préparer, sans doute à partir du mois de septembre, les prochaines élections municipales. Et ça rejoint l'autre question qui vient de nous être posée, comment, tout en étant minoritaire, respecter le principe démocratique de devenir majoritaire. Alors, je vais prendre, très rapidement, justement les chiffres de la ville dont je suis l'élu, c'est-à-dire les chiffres de Colombes, pour montrer ce qu'il est possible de faire en restant dans la logique de mon raisonnement précédent, c'est-à-dire du front anti-LREM. Si on regarde Colombes, donc ville de 86 000 habitants dans les Hauts-de-Seine, un peu la population de Béziers dont nous parlait tout à l'heure Emmanuel Ménard, on constate que La République En Marche y a atteint aux élections européennes 22%, c'est-à-dire un chiffre sensiblement plus élevé que sa moyenne nationale, et qui indique donc dans cette ville une tendance lourde en sa faveur. Si on prend maintenant la gauche résiste dans une ville qui est historiquement de gauche, avec 36 ans de municipalité communiste avant, la gauche résiste assez bien avec 21,75% des voix, et les écologistes tutoient d'ailleurs la gauche avec environ 19%. Quant à la droite, et donc j'en viens à la question précise, quant à la droite, la vraie droite, elle peut afficher un total de près de 25%, ce qui n'est pas nul si on compare ce total aux autres chiffres que je viens de donner, qui pour d'ailleurs des raisons locales, puisqu'actuellement c'est une municipalité de droite qui dirige la ville, pourrait aux élections municipales être à mon avis supérieure, parce que les municipales ne vont pas reproduire bien entendu strictement le score des européennes pour des raisons évidentes, mais à mon avis, d'au moins 5%. Autrement dit, comme traditionnellement à Colombes, il n'y a jamais eu, et je pense qu'il n'y en aura pas davantage cette fois-ci, de liste Front National ou Rassemblement National. Bon. On peut imaginer que, et d'ailleurs ça va se produire dans beaucoup d'autres villes, je ne sais pas à Versailles comment les choses vont se passer.
On l'espère bien.
Mais on va
bien
avoir un très grand nombre de triangulaires du fait, justement, de cette fragmentation du corps électoral en minorité, on va avoir une multiplication des triangulaires, et peut-être si les écologistes de M. Jadot, qui ont bien envie de jouer leur propre rôle, se maintiennent, dans un certain nombre de villes, on pourra avoir des quadrangulaires. Parce que si vous avez un corps électoral qui est divisé en quatre forces d'à peu près 25%, un quart chacun, ce qui est en gros le cas dans beaucoup de villes, eh bien là, une droite, certes minoritaire, mais réunie derrière naturellement de nouveaux, alors je ne dis pas leader à cause du petit cochon qui est devant nous et qui m'imposerait, mais de nouveaux animateurs, de nouveaux dirigeants, de nouveaux chefs, eh bien cette droite pourrait dans beaucoup de villes, et j'en termine par là, l'emporter de façon minoritaire, mais dans le cadre de triangulaires ou de quadrangulaires.
C'est ça, mais donc, ce qui veut dire qu'on s'éloignerait quand même de la démocratie. C'est pas un bilan merveilleux.
Si vous voulez changer les règles du jeu, la politique, c'est comme une soirée jeu de société en famille. Si vous voulez passer de la bonne paye au Monopoly, il faut commencer par gagner la bonne paye. Donc si on veut changer les règles du jeu électoral, on arrive au pouvoir, et on arrive au pouvoir avec les règles du jeu qui sont déjà là.
Je voudrais rebondir sur deux choses de monsieur qui viennent d'être évoquées par monsieur Bouluffer. Ben voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée. Pardonnez-moi. Non, sur les élections municipales, j'adhère totalement. Alors, dans la ville de Versailles, beaucoup se sont interrogés. Versailles, il y a eu 30% de voix pour Macron, 28% pour la liste LR, 12% pour le Front National et 8% pour Europe Écologie Les Verts. Il y a eu une vraie poussée Europe Écologie Les Verts à Versailles, alors qu'on avait plutôt traditionnellement une gauche qui faisait 15% environ. Là-dessus, je voudrais juste rappeler aux auditeurs que Versailles n'est pas la ville que l'on croit. Tout d'abord, on dit que c'est une ville conservatrice. Non. Depuis des années, le maire de Versailles est plutôt de centre-gauche. Étienne Pinte, on se souvient, était un député qui avait voté la loi sur l'avortement. Puis il y a eu
était très favorable à l'immigration.
François de Mazières.
J'avais souvent des discussions avec lui sur l'immigration.
François de Mazières est plutôt issu du MoDem initialement, il faut se rappeler. Il vote contre le tarif famille nombreuse pour les piscines. D'ailleurs, François-Xavier Bellamy également.
Cela étant dit, les élus ne sont pas forcément représentatifs de la sociologie d'une ville.
Il y a quand même 16. Il faut rappeler que dans l'équipe de François de Mazières, il y a un sénateur En Marche et 16 conseillers municipaux proches d'En Marche. Donc, globalement, on a quand même une municipalité qui est très de centre-gauche. Et en revanche, on a, il est vrai, pour les élections européennes, tout n'est pas cuit. Alors, François de Mazières a dit qu'il se rapprochait de Macron. Alors, c'est très compliqué parce qu'on a un député dans l'opposition qui est Macron. On a un député européen maintenant qui est dans la majorité. On a un sénateur En Marche dans la majorité. Je crois qu'à Versailles, ça va exploser. Et nous croyyons au fait qu'il faut une alliance des droites. Et je dirais même, et c'est là où je voulais
pour revenir. Les municipales,
pour les municipales, une alliance citoyenne. Parce que je vais aussi, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, nous ne travaillons pas suffisamment avec certaines personnes de bonne volonté de gauche. Et il y a une prise
de conscience...
Ça,
alors c'est la thèse de Buisson, hein, l'idée qu'il faudrait que...
Il y a même au-delà. Hein.
Voilà, au-delà.
Lorsque nous avons participé aux
États généraux... En gros, c'est une alliance à l'italienne, quoi.
Nous avons participé aux États généraux de la bioéthique, nous avons vu, moi j'ai participé à 3 ou 4 reprises, j'ai eu des occasions de discuter avec des personnes de gauche de bonne volonté, et on se rend compte que les thématiques communes, hein, notamment sur les questions d'esclavagisation de l'homme, hein, par la GPA ou la PMA par exemple, ils étaient totalement en accord avec nous. Même l'autre jour, je discutais dans un restaurant avec une personne proche de la France insoumise à Versailles, et je lui disais, bon, vous savez, on n'est pas si loin que ça sur certains aspects, mais il y a un point que vous n'avez pas compris, c'est que nous sommes opposés à l'immigration parce que nous sommes contre l'esclavage de l'homme. Or, je suis surpris que vous, de gauche de la France insoumise, vous soyez pour une immigration massive, alors que vous êtes les idiots utiles du grand capital apatride. Et là, elle était très surprise, et j'ai vu qu'elle était assez sensible. Et je pense que là, nous avons à gagner des relations. À nous de ne pas sectariser, notre discours.
Je pense qu'une union des droites qui s'identifierait de façon très claire comme un front, pardon de me répéter, comme un front anti-Macron attirerait, dans des deuxièmes tours par exemple, des voix venues de gauche et notamment de la France insoumise. Je n'irai pas aussi loin que Patrick Buisson, mais il y a certainement quelque chose à faire de ce côté-là.
Moi j'ai eu des discussions avec des camarades de gauche, si je puis dire, où j'ai senti une convergence, surtout sur la question de la démocratie locale aussi, pour laquelle ils sont très très sensibles. Et une plateforme commune qui permettrait de redonner le pouvoir au peuple avec des créneaux simples et des valeurs bien identifiées, permettrait d'avoir des alliances beaucoup plus larges que nos partis politiques, comme le Front National, des alliances qui iraient au-delà du Front National, avec une droite conservatrice, etc. Il faut que la droite conquiert aussi le mouvement citoyen, qui est ce qui a été à l'origine du mouvement de Macron. En fait, il faut qu'on reconstruise un mouvement citoyen, là où on a été déstabilisé, c'est que Macron a réussi le mouvement citoyen que la droite n'a pas réussi à mettre en place.
Cela étant dit, il faut souvent un homme ou une femme pour dans le fond, illustrer ou incarner.
Là, je suis en désaccord.
Le mouvement de Macron est parti de Macron, quoi.
Oui, une femme serait très bien.
Une femme serait très bien, oui. Je vois à qui on pense. Alors,
je suis assez d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a des convergences à trouver avec des gens qui sont actuellement nos adversaires, en tout cas sur l'échiquier politique sous la forme qu'il a actuellement. Je suis d'accord sur le fait que ces convergences sont possibles une fois qu'on est au pouvoir. Malheureusement, pour des raisons purement électorales directes, je suis très sceptique sur la capacité qu'on pourrait avoir à faire une plateforme avec nos adversaires de gauche, parce que les sujets sociétaux sont extrêmement clivants, et je crois qu'on ne se rend pas compte à droite à quel point les mots nation, patriotisme, etc. sont des repoussoirs terribles pour les gens qui sont à gauche. Et en tout cas, à ma génération, on arrive à trouver effectivement des points de convergence dans la critique de certaines choses, mais je vous assure que le vote de droite pour quelqu'un de gauche, ça peut s'apparenter à un certain moment à un suicide social. Il y a une capacité de la gauche à mettre une pression sociale et personnelle sur ses électeurs qu'on sous-estime à droite. Et
en fait, positivement,
les reports de voix des présidentielles le montrent.
Négativement, c'est possible. Positivement, c'est impossible.
Oui, mais rappelez-vous.
Mais négativement, c'est possible dans la mesure où si Macron arrive à un tel niveau de détestation à son encontre, il est possible que des gens, comme ça s'entend déjà, hein, des gens de France Insoumise qui disent, nous sommes prêts à voter Marine Le Pen au second tour. Donc, si vous voulez, il y a un certain niveau de rejet où une telle évolution serait possible.
Le second tour de la présidentielle, par exemple, c'était parfaitement clair que c'était la ligne de Marine Le Pen, à savoir, on en met plein la tronche aux électeurs de François Fillon, en disant que c'est d'affreux bourgeois mondialisés qui ne tiennent que leur porte-monnaie. D'ailleurs, les Européennes lui ont pas donné tout à fait tort, mais et elle est allée chercher directement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Je vous donne un petit indiscret. Elle a prévu une vidéo qu'elle a postée où elle s'adressait directement aux électeurs de Mélenchon. Il y avait une vidéo qui était faite pour François Fillon. Elle n'est jamais parue. Parce qu'elle a choisi de s'adresser uniquement à cet électorat-là, et elle s'est dit, pour des raisons sociologiques, quand je vois la grille des salaires, quand je compare nos différents électorats avec un certain nombre de biais statistiques, je constate une convergence. Il se trouve que la majorité des reports de voix est venue des électeurs de François Fillon, et que les reports de voix de la France Insoumise ont été anecdotiques sur le plan statistique, alors même qu'elle avait axé une stratégie précise dans cette direction.
Oui, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, parce que l'histoire s'accélère. Quand vous voyez que Mélenchon est passé de presque que 20 à 6%, c'est bien que l'électorat est passé quelque part. Je vous rappelle aussi ce conseiller régional dont j'ai oublié le nom, qui a quand même fait un coming out. Excusez-moi. Qui a fait
conversion.
Voilà, sa conversion.
Il est sorti du placard. Auréa Cotarac, je précise pour les auditeurs.
Tout à fait, qui a appelé donc à voter pour le Rassemblement National, ce qui était plutôt pas mal, et qui, à mon avis, exprime bien le trouble qui existe dans l'électorat de la France Insoumise et qui s'est aussi représenté lorsque cet élu qui était l'ancienne militante lycéenne dont j'ai oublié le nom, Autain. Clémentine Autain a adopté des positions extrêmement immigrationnistes où elle s'est fait totalement rejeter par les membres de la France Insoumise. Donc je pense que là-dessus, il faut tendre les bras, il faut justement cette fraternité, il faut la construire, et c'est aussi à nous d'aller vers eux.
Oui, parfaitement au second tour, quand on a besoin d'un report de voix et d'un complément pour gonfler le score et passer la dernière marche du podium. Simplement, je pense que dans un premier tour, il faut être prudent, et dans un premier tour, il faut plutôt être rassemblé autour de fondamentaux solides et
bien
forts.
Sûr.
Vous avez besoin de ça pour avoir des militants, pour pouvoir... Il faut cadencer son combat autour de politique global autour d'un sujet particulier sur lequel rassembler et compter ses amis autour de soi. Mais effectivement, pour le second tour, il y a des choses à faire, des choses qu'on n'était pas capable de faire jusqu'à présent. Mais attention à ne pas confondre la première marche et la seconde.
Alors je précise pour les auditeurs, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs à Versailles de Radio Courtoisie, qu'évidemment la gauche, malheureusement, et je parle d'une manière générale sur le territoire national et pas particulièrement à Versailles. Je ne voudrais pas que mes amis versaillais s'imaginent qu'on focalise sur un électorat en particulier, mais malgré tout, il y a dans... Moi, j'ai une grande croyance dans le fait de ce potentiel.
Jean-Paul Bullifère, après, nous serons amenés à faire quelques annonces. Hein.
Alors, simplement, comme il faut...
Et notamment rester... à donner la parole aux auditeurs. Parce
comme
que,
il faut s'efforcer, surtout questions. Dans notre famille politique, de rester lucide, moi, je présenterai trois objections, mais trois difficultés réelles auxquelles... il faut s'affronter pour les résoudre, non pas considérer du tout qu'elles sont insurmontables, mais bien les avoir présentes à l'esprit par rapport à tout ce que nous venons de dire les uns et les autres. Premièrement, c'est arrêter, c'est un peu ce que Christian Vanesse disait tout à l'heure dans son introduction, arrêter justement en leur présentant des alternatives possibles, l'hémorragie des cadres et d'un certain nombre d'élus républicains vers La République En Marche. Donc ça, il faut leur parler. Moi, c'est ce que je fais à Colombes tous les jours, en leur disant, écoutez, arrêtez, vous êtes en train de renier ce que vous appelez la droite de conviction. Votre conduite est une véritable pantalonnade. Donc arrêtez cette hémorragie, c'est la première chose. Hein. Deuxième chose, il faut absolument, sinon on se paye de mots, trouver pour ce rassemblement qu'on a évoqué, eh bien, de nouveaux fédérateurs. C'est-à-dire des gens qui, justement, par leur personnalité, soient capables de rassembler et non pas de créer de nouvelles divisions. C'est pas facile, mais ça existe. À Colombes, par exemple, ça existe aussi, notamment dans la jeune génération. Je dis ça parce que je ne veux pas en faire un plaidoyer pro domo, justement. Et troisièmement, arriver à élargir notre plateforme de propositions à l'écologie, ça c'est absolument indispensable. Et à ces demandes populaires, à ces attentes populaires,
je pense.
Où par rapport à la mondialisation, par rapport à un certain nombre de choses, on peut établir des alliances assez larges.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le livre journal de la résistance française, dirigé par Christian Vanest. Il reçoit Jean-Paul Bullifère, adjoint au maire de Colombes, Fabien Bouglet, conseiller municipal de Versailles et président de l'association Versailles Famille Avenir, et Louis Lecomte, journaliste. Et il s'interroge, mais où sont passés les conservateurs ? Une question à laquelle répondent quelques auditeurs.
Oui, alors par exemple, il y a un auditeur ici qui emploie un terme que nous n'avons pas employé. On a employé le terme conservateur, on a parlé de populisme aussi. Lui, il emploie le terme réactionnaire. Alors il dit, la gauche et la droite ont signé contre le réactionnaire un pacte secret d'agression perpétuelle. Voilà. Alors, moi, réactionnaire est un mot qui m'a toujours plu, parce que je pense que quand on est malade, on aime bien qu'il y ait une réaction. Un réactionnaire, en général, c'est quelqu'un, effectivement, qui réagit lorsqu'il sent que le corps social est malade. Je ne pense pas que le réactionnaire soit quelque chose de même si le mot est un peu gênant à employer, quand on l'analyse, c'est plutôt un mot positif pour moi, être réactionnaire.
C'est le problème du balancier, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que le balancier est tellement allé du côté progressiste qu'il faut un bon coup de balancier de l'autre côté pour ramener justement le pendule au juste milieu.
Bien sûr.
Hein, le juste milieu, ça te suppose...
C'est ce qui crée Thibon.
En 1940, je pense que De Gaulle a été un parfait réactionnaire, non ? Il a dit la France continue à exister.
Le mot réactionnaire est plus lié à une posture esthétique et personnelle de révolte face à un monde qu'à un réel projet politique.
C'est vrai.
Donc même si le mot peut nous en tant qu'individualité nous faire
jouer éventuellement. Moi je ne parle pas volontiers.
Personnellement je ne me considère pas comme réactionnaire
je n'en parle pas parce que un auditeur là.
Voilà exactement. Non mais attention avec le mot réactionnaire. Ouais. Oui c'est un mot qui est individuel et qui concerne plus une attitude intime qu'un réel projet politique.
Sans doute. Alors ici, un deuxième auditeur qui dit « Bonjour, j'ai la chance de beaucoup voyager un peu partout dans le monde et il y a heureusement de nombreux pays qui savent allier tradition et modernité, qui ont encore le sens des valeurs, le respect du patrimoine et de la culture où il existe une belle cohésion sociale. Malheureusement, après des décennies de nivellement par le bas, de déconstruction, de corruption, de promotion de la crétinerie, pour mieux asseoir le néolibéralisme, la France est en mauvaise posture, d'autant plus que Macron et son gouvernement intensifient le déclin. » Courtoisement, moi je pense que c'est très juste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette déclaration extrêmement juste.
Je me permets de faire une intervention sur le sujet.
Oui.
C'est quelque chose que j'ai découvert en tant qu'élu. C'est que, et ça c'est peut-être un de nos travers, c'est de considérer que tout le monde, 100% de la population, a le même niveau d'information que l'élu, que l'intellectuel. Et donc on est dans notre sérail, on est tous entre nous, on discute entre nous, c'est super. Mais en fait, allez, 95% de la population n'a pas le même niveau d'information que nous, nous pouvons avoir. Et en fait, souvent, on est en décalage entre l'information que nous avons, qui est souvent en avance d'ailleurs, et on n'est pas toujours compris, parce qu'on est un peu lanceur d'alerte sur tel ou tel sujet, par une population qui a l'information peut-être 5 ans, 10 ans après nous, etc. Et donc, je crois effectivement que la déculturation des masses, globalement, il ne s'agit pas de dire un tel ou un tel, a contribué finalement à supprimer l'information aux masses, qui fait qu'effectivement, ils sont beaucoup plus manipulables, par exemple, par des télévisions comme BFM ou CNews, qui vont leur donner une information assez rapide, sans qu'il y ait forcément de profondeur dans la réflexion. Et j'adhère totalement à l'intervention de votre auditeur, parce qu'en réalité, moi aussi, je voyage régulièrement, malheureusement, la France est en train de perdre quand même beaucoup dans... Parce qu'avant, même un ouvrier avait une vraie culture. Hein, on parlait du brevet des, on parlait du, à l'époque du brevet d'école, du certificat d'études. Hein, on peut reprendre les cahiers d'école des gens qui passaient le certificat d'études. On prend les bacheliers d'aujourd'hui. Et donc, ce nivellement par le bas contribue à favoriser des prêcheurs de solutions faciles comme Emmanuel Macron.
Entre parenthèses,
Jean-Paul Bolliffer.
On vient d'apprendre, non, c'est un simple exemple pour aller dans le sens de Fabien Bouglet, on vient d'apprendre aujourd'hui, c'est en première page du Monde de ce soir, que Sciences Po renonçait totalement aux épreuves écrites dans son examen d'entrée, avec cet argument extraordinairement stupide que c'était pour augmenter la diversité sociale du recrutement. Autrement dit, aujourd'hui, pour rentrer à Sciences Po et pour exercer les métiers auxquels son diplôme conduit, il ne faut plus savoir écrire, ça n'est plus nécessaire.
Il suffit d'avoir du bagou.
Bon courage pour la suite.
Voilà,
les entreprises qui les recruteront.
C'est
la première page du Monde et tout le monde annonce ça comme une grande avancée du progressisme éducatif.
Sur cette question aussi, la question de la déconcentration et du girondisme et d'une part plus importante du local dans l'enseignement reste aussi centrale. Et ça fait plusieurs sujets qu'on aborde, que ce soit l'écologie ou encore une fois l'éducation, le fait que le pouvoir soit exercé de manière trop verticale et que les pouvoirs locaux n'aient pas assez de moyens coercitifs de maîtriser ce qui se passe, revient sur le tapis. Donc effectivement, dans toutes les dynamiques qui se mettent en place, c'est vrai que tout le monde se pose la question quel est le sujet qui va rassembler. Alors ça peut être un objet politique comme l'écologie ou comme l'identité, mais ça peut être aussi non pas un objet mais un projet, comme par exemple le fait de déconcentrer un petit peu les pouvoirs. Et ça, pour le coup, ça peut être un point de convergence idéologique avec des gens qui sont pas nécessairement d'accord avec nous sur le plan idéologique, mais qui se disent, même si on n'est pas d'accord sur comment on va, sur ce qu'on va faire du pouvoir, on peut se mettre d'accord sur comment on aimerait l'exercer. Et ça serait déjà peut-être un premier pas.
D'ailleurs, à mon avis, il y a aussi une chose que nous avons tort de faire, à mon avis, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le corps enseignant est vraiment au cœur des difficultés. C'est-à-dire qu'ils sont sont en première ligne de la relation avec les difficultés de la société. Et ils font un travail remarquable, y compris dans le privé, dans le public.
Film entre les murs.
Mais c'est vraiment... Et je pense qu'il faut leur parler également. Et les enseignants, aujourd'hui, ils ont besoin de reconnaissance. À droite, on a eu probablement le tort de pas forcément parler au corps enseignant, peut-être parce que, simplisme, on disait, c'est des personnes idéologisées, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils sont prêts à entendre un discours de culture, parce qu'ils savent que les personnes de droite sont attachées à la culture, et ils sont aussi, ce corps enseignant est un transmetteur des valeurs culturelles.
Oui.
Et il faut...
Transmet. Or, qu'est-ce que c'est qu'un conservateur ? C'est un transmetteur.
Exactement. Voilà. Et donc,
un enseignant est par définition.
Je pense qu'il faut que l'on parle aux enseignants. Nous avons vraiment là un rôle important et leur redonner aussi du courage par rapport à leur travail. Alors, qui n'est pas forcément facile.
Quelques réflexions d'auditeurs. On dit que j'ai bien fait d'inviter Madame Ménard. J'espère que. Non, elle ne nous écoute plus maintenant, mais en tout cas, je lui dirai.
Au nom de tous les invités, je suis très vexé. Voilà.
pour rassembler les droites, il faudrait supprimer l'ISF, les droits de succession et l'IFI. Là, je comprends pas bien. Là, pourquoi il faudrait, pour rassembler les droites, il faudrait supprimer l'ISF.
L'IFI plutôt.
L'IFI. Les deux, mais les deux, oui, oui, oui.
Bah, l'ISF.
Et même le droit de succession. Donc, globalement, là, j'avoue, je comprends assez mal parce que la droite en général est plutôt attachée au respect de la succession, précisément des droits de l'héritier par rapport à l'héritage.
L'auditeur ne propose-t-il pas de supprimer les droits de succession?
Oui, c'est ce qu'on comprend.
Oui. Oui, c'est ce qu'on
Il
comprend,
veut continuer à aller plus loin.
Mais pour rassembler les droites?
Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il considère que, en fait, une fois qu'on a supprimé ces impôts-là, c'est plus une question et donc ça rassemble les droites sur des sujets autres que la question fiscale.
Vous pensez que l'auditeur veut dire que si le gouvernement va dans ce sens-là, les droites vont se rassembler? Ça peut se comprendre comme ça.
La
ouais.
véritable question, c'est de savoir si le fait d'être passé de l'impôt sur la fortune de l'ISF à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, est quelque chose que nous devons approuver ou non.
La droite ne peut pas approuver ça, parce que c'est au contraire favoriser le spéculateur au détriment de celui qui achète un bien et le fait fructifier, de l'investisseur en fait.
En fait, c'est pas du tout. Moi, je suis pour la suppression de l'ISF tout court,
oui.
et une fusion dans un impôt sur le revenu avec une tranche pour justement les spéculateurs sur les revenus très importants.
Vous dites que la droite a disparu. On n'a pas dit que la droite avait disparu, hein. On a dit que le conservatisme a disparu. Hein. Mais comment les hommes et les idées de droite peuvent-ils disparaître? À moins d'une féroce dictature version stalinienne, comme en Russie et même dans un parti, il y a toujours une droite et une gauche. Ça, c'est pas faux, ça. Et la droite a toujours existé. 22 gouvernements sont tombés sous la 4ème République et ensuite, il y a eu l'UNR. Voilà quelqu'un qui...
Oui, c'est pas ce que nous avons dit, en tout cas. Pour
non,
ma part,
on l'a pas dit, en fait.
Au contraire, avec des chiffres que la droite avait...
Voilà, existe toujours. Oui.
On cherche, mais elle est là. En fait, c'est... Voilà. On parlait de la volatilité de l'électorat à gauche, mais une des caractéristiques du moment... Et moi, j'ai été surpris en fait en voyant le titre de l'émission où sont passés les conservateurs. Mais les conservateurs, au contraire, ce que j'avais envie de dire, c'est enfin voilà les conservateurs. C'est-à-dire que aujourd'hui le parti politique en tant qu'objet commence à trouver ses limites pour tout un tas de raisons, parce que la droite en a marre d'être cantonnée en dehors du pouvoir, parce qu'une fois que la droite ne peut pas être au pouvoir sans les apports de voix du FN, et une fois que la droite est au pouvoir comme Sarkozy en 2007, elle passe son temps à être de gauche pour s'excuser et éviter qu'on l'assimile au FN. Au contraire, les conservateurs arrivent. Et les conservateurs sont les réseaux qui vont faire sauter le piège mitterrandien et faire sauter cette digue qui empêche la droite d'arriver au pouvoir. Les conservateurs arrivent et c'est une preuve de conservatisme de se montrer méfiant et de ne pas immédiatement se donner aux partis politiques et de se montrer encore circonspect pour arriver à une échéance politique en force et ne pas se faire de faux espoirs et immédiatement.
C'est un peu paradoxal comme ce que vous développez là. Hein,
parce c'est un petit peu paradoxal.
Moi je partais du constat simple, c'est que les électeurs théoriquement conservateurs avaient voté progressiste puisqu'ils avaient voté pour même Loiseau, et que celui dont on disait qu'il était conservateur, à savoir M. Bellamy, a manifestement subi un échec retentissant.
Ah oui, mais là,
donc, si vous voulez, c'est pour ça que je disais que...
Bon,
J'ai parlé d'un Versaillais, j'ai vraiment mal fait parce que du coup, M. Bouglet ne se sent plus.
Non, je siège pour préciser aux auditeurs que je siège en face de lui et j'ai pu apprécier ses turpitudes depuis quelques années. Et donc, c'est probablement les raisons de son échec est lié à ses turpitudes.
Allez.
Alors, je les précise.
Ne réglez pas vos problèmes, Versaillais.
Non, non, pas du tout.
Radio,
mais je vais expliquer une chose importante. Oui. Si la liste de François-Xavier Bellamy a eu si peu de voix, c'est que tout simplement... Pour les centristes, il est apparu trop à droite. Et pour les gens de droite, comme on connaît son double langage, eh bien, beaucoup de conservateurs n'ont pas voté.
Pas forcément en dehors de Versailles, vous savez.
Ouais, mais vous savez, ça se diffuse quand même, ça se diffuse.
Oui, oui. C'est des explications beaucoup plus simples.
Oui. Ah bon, lesquels?
Ben, je pense que tout simplement, moi j'ai voté pour lui, donc je ne m'en cache pas, mais je pense que son profil, tout simplement, était beaucoup trop intellectuel pour l'auditoire auquel il s'adressait. Fabien Bouglet a bien expliqué tout à l'heure qu'on était trop souvent un peu entre soi, et ça c'est une erreur. Et puis je pense même qu'au point de vue du charisme, sa personnalité n'était peut-être pas forcément celle qui entraînerait.
Il faut reconnaître de ce point de vue-là, d'ailleurs, que le jeune Bardella a été exceptionnel.
Bien sûr.
Oulu Aubry, chez la France Insoumise,
à son âge, franchement.
Je voudrais quand même rappeler
qu'on a
pris aux élections européennes en tête de liste quelqu'un qui a perdu la circonscription la plus imperdable de la droite. Hein, non, mais quand même, perdre la première circonscription de Versailles, c'était quand même un signal.
Ne vous acharnez pas, monsieur Bouvet.
On a dit qu'il était miraculé après. Alors, on continue quand je lis dans Valeurs Actuelles. On a dit qu'il était miraculé. Non, il n'est pas miraculé. Je pense qu'il va avoir du mal à se relancer et que là, on a vraiment vu.
Alors, on me demande si j'espère un Rassemblement National et on me dit que si je l'espère, je me mets le doigt dans l'œil. Bon, la réponse est déjà faite, je ne sais pas s'il faut répondre. Moi, je pense que si, c'est toujours possible, notamment sur les bases qu'on a essayé de définir tout à l'heure. Hein. Je pense qu'il y a aussi des personnalités qui sont actuellement en réserve. Je dis tout à fait au hasard Marion Maréchal, par exemple.
Quelle autre stratégie
et qui pourrait parfaitement réveiller un certain nombre de dormeurs actuels. Alors, les gens qui votent Macron dans le centre des villes, il y a deux populations. Ce sont les gens riches et les gens d'origine étrangère. Voilà. C'est une vision peut-être un peu simpliste des choses. C'est un peu vrai à Paris, notez.
Ça fait pas 22%.
Hein. Mais en revanche, les chiffres... Voilà.
Il me semble que c'est un peu à la serpe, comme analyse. Oui,
les personnes d'origine étrangère qui votent, votent souvent Front National.
Je ne crois pas.
Ah, il y en a.
À Paris, les arrondissements de l'Ouest ont voté essentiellement pour l'Oiseau, pour des raisons effectivement qui tiennent à leur sociologie. Ce sont les quartiers aisés. Et en revanche, à l'Est, effectivement, il y a un assez grand nombre d'immigrés.
Permettez-moi quand même de faire une réflexion sur Paris. Il y a, malgré ce qu'on peut en dire, les personnes d'origine étrangère en région parisienne sont plutôt en dehors de Paris, parce que Anne Hidalgo a fait un travail... pour le coup d'une efficacité redoutable pour virer l'intégralité des pauvres, et les personnes d'origine étrangère qui vivent en France sont quand même rarement aisées, et il y a le vote parisien est quand même assez peu influencé par les personnes directement d'origine étrangère.
Oui, c'est exact, mais en Seine-Saint-Denis, par exemple, là, vous avez un vote étranger important. Oui. Effectivement, les écolos arrivent en deuxième quand même. Hein, et le Rassemblement National n'arrive qu'en quatrième position. Hein.
Oui, puis la commune, je crois que c'est Drancy qui est tenue par l'UDI. Ils ont fait un score absolument splendide de quasiment 32%, l'UDI, ce qui pose des questions intéressantes sur la gestion de l'argent public de cette ville.
Je dis une bêtise, c'est en deuxième position, le Rassemblement National, en Seine-Saint-Denis. Hein. C'est dans les Hauts-de-Seine qu'il est en quatrième position.
Dans mon département.
Oui, tout à fait. Alors, dans l'enseignement privé, hors contrat en particulier, catholique, on voit arriver de plus en plus d'enfants de professeurs du public. Je ne vois pas le rapport avec le sujet que nous évoquons, mais je le dis.
Peut-être qu'un certain nombre de professeurs en pied avec la réalité concrète et directe d'un certain nombre de réalités sociologiques.
Ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure sur
exactement.
Ah oui, c'est vrai, d'accord. L'expression « alliance citoyenne n'est pas française », le mot « citoyen » est substantif, ah oui. Effectivement, il ne faut pas employer le mot « citoyen » comme adjectif. Vous savez, les auditeurs de Radio Courtoisie sont extrêmement pointilleux sur le respect de la langue française.
Ils ont parfaitement raison. Moi, je trouve
C'est une façon d'être conservateur.
C'est la classe.
Voilà. il y a une chose plus importante, la plus importante, et là je suis très content de cette dernière intervention d'un auditeur, il y a une chose la plus importante, c'est le référendum. Voilà. Il faut réunir toute la France dans un référendum. Monsieur Lecomte.
Oui, référendum et puis effectivement décentralisation des pouvoirs. Je pense qu'il y a un projet politique à deux vitesses à mener sur déjà d'une part le contenu de l'action politique et deuxièmement le moyen de l'action politique. Référendum et un peu de décentralisation pourraient être effectivement des moyens de s'entendre une fois au pouvoir avec nos adversaires. C'est vrai qu'un braquage de banque à une présidentielle, c'est toujours jouable sur un timing, sur une accélération, etc.
Sur une chronologie,
sur un moment. Sur une providence. Mais une fois au pouvoir, effectivement.
Il nous reste une minute. Hein.
Réfléchir sur le moyen de l'action de pouvoir est intéressant.
Avant que l'émission ne se termine, donner une information.
Allons-y.
Mais qui est importante par rapport aux prochaines élections municipales. On dit souvent élections municipales, enjeux locaux. Non. Je vous signale qu'il y a un projet qui est en train de cheminer dans les cartons gouvernementaux qui, en 2020, au moment du renouvellement du Sénat, de procéder à la faveur de la réforme institutionnelle à un renouvellement intégral du Sénat. Or, on sait que l'élection au Sénat est mécaniquement la conséquence des élections municipales. Donc attention, élections municipales, pas seulement enjeux locaux, mais tentative à nouveau pour le pouvoir macroniste de mettre la main sur l'ensemble des institutions.
Eh bien, on en restera là. On continuera d'ailleurs cette réflexion sur le conservatisme lors d'une prochaine émission qui sera enregistrée au mois de juillet, je pense. Voilà. Merci beaucoup encore. À Fabien Bouglé, à Jean-Paul Bolluffer et à Louis Lecomte d'avoir participé à cette émission, et également à Emmanuel Ménard qui était au téléphone. Voilà.